Laudetur Jesus Christus.
C'était il y a un an une déflagration au sein de l'Église de France. Le rapport Sauvé dévoilait plus de 330 000 victimes mineures d'abus sexuels depuis les années 50. Alors depuis, quel chemin a été parcouru? Nous en parlons dans notre dossier en fin de journal. L'armée russe en recule dans le sud de l'Ukraine. Le dirigeant ukrainien parle d'une dizaine de villages récupérés. Un recul confirmé par une carte de l'état-major russe. Et puis direction Kinshasa au Congo où se tenait la pré-COP27, une réunion d'ampleur pour tenter de défricher les enjeux de la COP de novembre. Et un sujet s'impose, la compensation des Occidentaux vers les pays du Sud. La Colombie et les États-Unis accordent leur violon pour une lutte en profondeur contre la drogue. Nous retrouverons notre correspondante à Bogota. Et puis enfin en Équateur, des violents affrontements se poursuivent dans les prisons. Depuis février 2021, 400 détenus ont été tués derrière les barreaux.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonjour. L'Ukraine revendique des avancées rapides et puissantes de son armée dans le sud du pays. Des dizaines de localités ont été libérées, c'est ce qu'affirme le président Volodymyr Zelensky. Myriam Sandouno.
Les quatre régions annexées en fin de semaine dernière par la Russie ont été libérées rien que cette semaine. S'est réjoui Volodymyr Zelensky. Des cartes de l'armée russe trouvées hier confirment en effet l'avancée de Kiev dans les régions ukrainiennes de Kharkiv et Kherson. Aujourd'hui, les Russes ont quitté la quasi-totalité de la rive orientale Oskil, une zone qu'ils contrôlaient. L'armée russe n'a pas pour autant fait état de retrait et appelle les russophones du sud de l'Ukraine à ne pas céder à la panique. Volodymyr Zelensky a tenu par ailleurs à remercier les États-Unis pour leur soutien militaire et financier. Washington a d'ailleurs prévu un nouvel envoi d'armes à Kiev. Et de leur côté, les Nations Unies dénoncent de nouvelles exactions russes dans les régions annexées. Elles tiendront une réunion d'urgence lundi sur le sujet.
Merci Myriam Sandouno. L'Azerbaïdjan libère 17 prisonniers de guerre arméniens après une médiation des États-Unis et de l'Union européenne. Le mois dernier, dans une nouvelle vague d'affrontements, près de 280 personnes avaient été tuées. Par ailleurs, la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux montrant l'exécution sommaire d'au moins 7 hommes présentés comme des soldats arméniens par des soldats présentés comme originaires d'Azerbaïdjan fait scandale. La France réclame une enquête impartiale et indépendante. Salve de missiles tirés par la Corée du Sud et les États-Unis ces dernières heures. Au lendemain d'un tir nord-coréen qui a survolé le Japon, c'est une première depuis 2017, des exercices conjoints des deux pays pour montrer qu'ils sont capables et prêts à neutraliser l'origine de la provocation, déclarent les armées américaines et sud-coréennes. La réunion préparatoire de la COP 27 de novembre s'est terminée hier à Kinshasa en RDC. Les ministres de l'environnement d'une soixantaine de pays s'étaient réunis. Une pré-COP dominée par les questions des pertes et préjudices et de la justice climatique. Alors que le réchauffement climatique est surtout le résultat des modes de vie des pays les plus riches, les pays du Sud en sont les plus victimes. Ils demandent des compensations financières. À Kinshasa, les explications de Pascal Moulégua.
Après deux jours de discussion entre ministres et spécialistes de l'environnement d'une soixantaine de pays qui ont travaillé sur les thèmes habituels des négociations sur les climats, adaptation, atténuation, finances, pertes et préjudices, le bloc africain a reconduit son cahier des charges présenté lors de la COP26 à Glasgow. Les dilemmes restent les mêmes. Les ministres africains ont affirmé avoir eu du mal à opérer un choix entre la lutte contre l'extrême pauvreté et la lourde facture à payer pour l'adaptation au changement climatique si les pays industrialisés n'offrent pas d'alternatives technologiques et financières conséquentes. À l'ouverture des travaux, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a même plaidé pour que le monde prenne une position commune sur les cas de force majeure qui justifierait par exemple le fait que la RDC décide de lancer des appels d'offres pour l'exploitation des blocs pétroliers alors que le monde veut sortir des énergies polluantes. L'envoyé américain pour le climat, John Kerry, s'est montré moins rigide sur la question. Il a proposé à la RDC de retirer les blocs pétroliers qui chevauchent des aires protégées. Pascal Moulégua, Kinshasa, Radio Vatican.
Le projet d'oléoduc du géant français Total en Ouganda et en Tanzanie, critiqué de toutes parts. Ce mercredi, deux associations françaises alertent sur son coût humain, climatique et environnemental. Ce pipeline serait l'oléoduc chauffé le plus long au monde. Il est censé transporter 216 000 barils de pétrole par jour en direction du marché international. Ce projet de Total produirait plus d'émissions de gaz à effet de serre que l'Ouganda et la Tanzanie combinées, dénoncent les associations. Au Burkina Faso, la mission de la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, repart confiante après sa visite post-coup d'État. La délégation ouest-africaine a rencontré le nouvel homme fort du pays, le capitaine Ibrahim Traoré, après le coup d'État de vendredi. Ibrahim Traoré qui promet de respecter le calendrier prévu pour une transition vers un pouvoir civil. En Colombie, l'ELN, l'armée de libération nationale, une des dernières guérillas encore actives, et le gouvernement annoncent reprendre des négociations de paix. Celles-ci étaient suspendues depuis près de 3 ans après un attentat de l'ELN contre une école de police. L'objectif est de parvenir à un accord de paix comme celui réalisé avec les FARC en 2016. On reste en Colombie. La lutte contre la drogue est l'un des piliers pour un climat plus serein dans le pays. Et dans sa stratégie anti-drogue, Bogota peut compter sur le soutien de Washington. C'est ce qu'est venu expliquer le secrétaire d'État américain Anthony Blinken durant une visite de 2 jours en Colombie. Sur place, les explications d'Anne Proenza.
La lune de miel entre le nouveau président Gustavo Petro, en poste depuis 2 mois, et les États-Unis semble donc se confirmer, notamment sur le sujet épineux de la lutte contre le trafic de drogue. Ce n'était pas gagné, car le premier président de gauche colombien a une vision bien différente de la plupart de ses prédécesseurs et a vertement critiqué à plusieurs reprises la guerre totalement répressive menée contre le trafic de drogue à l'instar des États-Unis depuis les années 70. Une guerre qui n'a empêché ni la Colombie de devenir le premier producteur de cocaïne du monde, ni les États-Unis d'être son principal marché. Mais l'époque est au changement. Nous soutenons fermement l'approche holistique prise par l'administration Petro, a affirmé le secrétaire d'État américain Anthony Blinken à l'issue de sa rencontre, ajoutant que les deux pays étaient, je cite, « sur la même longueur d'onde ». Gustavo Petro prône une approche globale, comprenant notamment une réforme agraire, afin que les paysans colombiens ne soient plus obligés de cultiver de la coca pour survivre, et une négociation avec les cartels de trafiquants dans le cadre d'un plan de paix total avec tous les groupes armés qui sèment la mort en Colombie. Anne Proenza, Bogota pour Radio Vatican.
De nouveaux affrontements ont éclaté hier dans une prison en Équateur au lendemain de violences entre détenus qui avaient déjà tué au moins 16 personnes. Un problème récurrent dans le pays où la surpopulation carcérale dépasse les 10%. Les précisions de notre correspondante dans la région, Léa Morillon.
Il n'y a pas eu de nouvelles victimes hier dans le centre pénitentiaire de Latacunga. La veille, l'une des plus grandes prisons équatoriennes située au sud du pays a été le théâtre d'affrontements entre détenus qui a fait 15 morts et plus de 30 blessés. Tous ont été tués à l'arme blanche ou par arme à feu. Parmi les victimes se trouve Leandro Norero, surnommé El Patron, qui a été arrêté en mai dernier pour blanchiment d'argent. Lié au trafic de drogue, l'homme serait devenu l'un des chefs parmi les détenus. Les gangs gèrent souvent le trafic de drogue depuis les centres de détention en Équateur et se font la guerre à l'intérieur comme à l'extérieur pour dominer le marché. Jusqu'à présent, les autorités se sont montrées incapables de juguler ces violences, souvent perpétrées à l'arme blanche et marquées par des décapitations et autres actes de barbarie. Depuis février 2021, le système pénitentiaire équatorien a connu 8 massacres entre détenus, ayant fait au total plus de 400 morts. Léa Morillon pour Radio Vatican.
Une panne géante d'électricité au Bangladesh. Plus de 80% de la population a été plongée dans le noir pendant plusieurs heures hier à la tombée de la nuit. Le Bangladesh dépend grandement de ses importations en gaz pour produire son électricité et souffre de la hausse des cours mondiaux depuis le début de la guerre en Ukraine. Avant de passer à notre dossier, un mot sur l'audience générale du pape François qui débute d'ici quelques minutes. François continue son cycle de catéchèse sur le discernement. Cette audience générale est à suivre en direct et traduite en français sur notre site internet. Je vous rappelle l'adresse www.vaticannews.va. Il y a tout juste un an, le 5 octobre 2021, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, la CIAZ, présidée par Jean-Marc Sauvé, remettait officiellement son rapport sur les abus sexuels sur mineurs à la conférence des évêques de France et à la COREF, la conférence des religieux et religieuses de France, ses commanditaires. Un rapport qui a fait l'effet d'une déflagration, mettant en lumière l'ampleur des violences sexuelles subies au sein de l'Église catholique depuis les années 1950, fruit de 2 ans et demi d'enquête, ce rapport fait état de 330 000 mineurs abusés sexuellement dans des contextes ecclésiaux et parle d'un mal à caractère systémique. Ce mal que reconnaîtront les évêques quelques semaines plus tard à Lourdes lors de leur assemblée générale. Ce matin, nous nous penchons sur le chemin entamé par l'Église catholique française depuis un an après ces révélations. Et pour en parler, notre invitée est Céline Béraud. Elle est sociologue à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, auteur notamment de l'ouvrage sur le catholicisme français à l'épreuve des scandales sexuels. On l'écoute.
Au cours de ces 12 derniers mois, il y a un mois qui a vraiment particulièrement compté. C'est le mois d'octobre, c'est-à-dire qu'il va se passer un mois entre la remise du rapport par Jean-Marc Sauvé à la conférence des évêques de France et à la conférence des religieux et religieuses de France qui en étaient les commanditaires et la rencontre à Lourdes qui a lieu un mois après et les décisions qui vont être prises par les évêques, par l'épiscopat français à ce moment-là. En fait, il y a tout un mois où les choses sont un peu dans le flou, il y a une sorte de flottement, parce que dans la perspective de Jean-Marc Sauvé, le rapport, c'est le début de quelque chose, c'est-à-dire que c'est une analyse, mais aussi des recommandations qui sont formulées. Et ça, c'est plus ou moins, je pense, compris ou perçu comme tel par les évêques. Probablement certains évêques, et peut-être certains catholiques aussi en France, voyaient plutôt la remise du rapport Sauvé comme une façon de mettre un point final à cette crise et au scandale sexuel qui avait vraiment éclaté à partir de fin 2018, début 2019. Mais c'est pas joué, c'est-à-dire que c'est pas gagné. Et c'est vraiment la mobilisation qui a lieu au mois d'octobre, qui est une mobilisation très intéressante parce qu'elle fait bouger les lignes classiques de la pluralité interne au monde catholique. C'est-à-dire que c'est vraiment à la fois des catholiques assez contestataires qui sont très mobilisés sur les questions de genre, de sexualité, sur la question du pouvoir dans l'Église. Et donc, on entend depuis longtemps sur ces créneaux-là qui vraiment s'expriment de manière très claire. Mais il y a aussi tout un pan beaucoup plus classique du catholicisme qui rejoint justement, en fait, qui converge pour demander aux évêques des réformes.
Quels ont été les fruits du rapport de la CIAZ sur le terrain ecclésial au niveau des diocèses, par exemple?
Il y a eu des groupes de travail qui étaient mis en place par la Conférence des évêques de France sur un certain nombre de thématiques qui avaient été pointées comme nécessitant justement une réflexion par la commission Sauvé. Il y a eu 2 instances aussi, une côté CEF avec Marie Derain de Vaucresson et une autre côté COREF avec Antoine Garapon sur justement la question de l'accueil des victimes, de leur accompagnement et aussi d'un geste posé par l'Église, qu'il soit financier ou d'une autre nature. Il y a toute une réflexion sur les formes de justice restauratrice. Ensuite, ce qui s'est fait plus localement, il y a eu effectivement dans beaucoup de diocèses, à l'échelle des paroisses souvent, mais probablement aussi à l'échelle de certains mouvements, des rencontres justement pour que la parole puisse exprimer l'émotion des fidèles qui ont été quand même très secoués par ces révélations. Moi, ce que j'ai observé, c'était souvent la lecture de témoignages de victimes. L'idée, c'était vraiment de faire entendre la parole des victimes qui avaient été recueillies par les membres de la commission. Il y a un autre moment qui est important, qui arrive tout de suite après, en fait. C'est le moment de la démarche synodale. Ça a été aussi, je pense, une occasion pour un certain nombre de catholiques, pareil, quoi, dans des paroisses, dans des mouvements, là où la démarche synodale a pris forme, et elle a pris forme dans des lieux variés d'église, pour là aussi réexprimer parfois leurs émotions ou leurs demandes de changement.
En quoi le rapport de la commission Sauvé a-t-il fait date, selon vous?
L'impact le plus important, c'est de faire ressortir toute une série de thématiques dont beaucoup ont été discutées, mais pas tranchées complètement au moment du Concile de Vatican II, puis sont de manière récurrente revenues dans le débat intra-catholique et étaient plutôt mises sous le tapis depuis quelques années. Quelles sont ces questions-là? Le rôle et la place du prêtre, les rapports entre clercs et laïcs, la place des femmes et également le discours catholique sur la sexualité. Je crois que là, on a des thématiques très importantes qui, aujourd'hui, sont au cœur du débat intra-ecclésial. Et peut-être que, voilà, un des effets positifs, c'est d'avoir ranimé un débat catholique, interne au monde catholique en France, qui était quand même plutôt atone et plutôt marqué et un peu écrasé par un discours très homogénéisant et qui contribuait à effacer cette pluralité interne au monde catholique.
Voilà, interrogé par Olivier Bonnel, Céline Béraud, sociologue à l'EHESL, la haute école, l'école des hautes études en sciences sociales, auteur de l'ouvrage Le catholicisme français à l'épreuve des scandales, publié aux éditions du Seuil, était ce matin notre invité et cette interview est à retrouver en version longue sur notre site internet www.vaticannews.va. Le prochain retour de l'actualité du Vatican, de l'Église et du monde, c'est tout à l'heure à partir de 13h. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée.